À la une ce midi, les compagnies aériennes se préparent à la grève de la frappe. Le point avec Air Tahiti, la réforme du RNS, vous entendrez Cédric Mercadal. Et enfin, science avec une ponte exceptionnelle prévue samedi. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
La une de l'actualité, c'est bien sûr cette grève qui se prépare.
Oui, après l'échec des négociations avec le gouvernement ce week-end, le mouvement de la frappe semble désormais inévitable. Dès minuit la nuit prochaine, la fédération de Jean-Paul Ourima appelle tous les fonctionnaires territoriaux, y compris dans les établissements publics administratifs, à se mettre en grève de façon illimitée. Alors on l'a dit, la mobilisation ne devrait pas être aussi générale que ce que souhaite le syndicat, mais au moins deux secteurs devraient être très touché. L'équipement d'abord, où travaillent beaucoup d'agents de catégorie D, une catégorie qui est au cœur de ce deuxième conflit. Et puis bien sûr l'aérien, puisque les pompiers de la direction de l'aviation civile restent le principal levier de pression de la frappe. Le syndicat promet que 43 des 47 aéroports du pays, tous donc, à l'exception de Bora Bora, Raiatea, Rangiroa et Tahiti, ils seront paralysés. Et on vous le disait ce matin, le pays a pris quelques mesures, mais c'est surtout Air Tahiti qui est aux premières loges. Charles Irénée, vous étiez il y a quelques minutes au siège de la compagnie.
Oui, et les équipes d'Air Tahiti sont plutôt occupées ces derniers jours. Plus 55% d'appels au standard, des centaines de voyageurs qui veulent avancer leur départ des îles, reprogrammer leur voyage ou tout simplement se renseigner sur la situation de demain. Le problème, c'est que Air Tahiti, pas plus que le gouvernement d'ailleurs, ne sait exactement combien de pompiers d'aéroports seront en grève. En décembre, tous les effectifs, à une ou deux exceptions près, avaient répondu à l'appel à la mobilisation de la frappe. Mais si on revient à 2023, certains professionnels avaient décidé de continuer le travail, ce qui avait permis de maintenir les vols vers Fakarava ou Ivaoa par exemple. Ce qui complique encore plus le travail, c'est que les pompiers ne sont pas obligés de se déclarer grévistes ou non grévistes la veille. S'ils ne sont pas en poste deux heures avant le premier vol de leur plateforme demain, ils seront simplement déclarés absents. En attendant, Air Tahiti maintient donc par sécurité son programme de vol et va tout de même tenter d'avoir des informations lors d'une réunion à la direction de l'aviation civile cet après-midi. Il s'agira aussi de discuter du service minimum, normalement prévu par un accord syndical signé en 2016. Sauf que le texte est mal rédigé, difficile à appliquer. Bref, rien ne garantit qu'il y aura ne serait-ce qu'une liaison vers les 43 îles concernées demain ou les jours suivants. Au total, je vous le rappelle, 488 vols et plus de 5100 passagers sont concernés par ce blocage entre mardi et dimanche, Lucie.
Et parmi eux, on l'a dit, il y a les scolaires. Un peu plus de 60% des effectifs auraient déjà pu être ramenés vers leur internat qui n'ont ouvert que dimanche. Les transports se font traditionnellement jusqu'au mercredi qui suit la rentrée et beaucoup d'élèves resteront bloqués dans leur île d'origine, a confirmé Air Tahiti ce matin. Des touristes resteront aussi bloqués puisque 800 d'entre eux devaient voyager ces prochains jours et que les vols de ce lundi sont déjà pleins. Des conséquences pour tout le monde donc et aussi pour la compagnie, Charlie.
Et oui, c'est l'autre précision apportée ce matin par la directrice commerciale Valerie Tetaria. La grève de décembre a coûté environ 100 millions de francs à Air Tahiti en ne comptant que les pertes liées aux passagers qui ont annulé leur voyage. Il faut ajouter à ça les heures supplémentaires des équipes et d'autres frais engagés pour s'organiser face au mouvement, ce mouvement extérieur à la compagnie qui s'attend à un coût équivalent pour ce deuxième conflit, environ 20 millions de francs par jour. Difficile à absorber vu la situation financière de l'opérateur qui prévoit déjà plus de 2 milliards de francs de pertes au titre de 2024. Alors Air Moana est aussi concernée, elle est aussi en lourd déficit d'ailleurs, mais c'est bien Air Tahiti qui dessert seul l'essentiel des îles bloquées et elle le fait au travers d'une délégation de services publics, une DSP signée avec le pays qui ne prévoit pas réellement de compensation en cas de grève à imputer à l'administration. Ce lundi, l'heure est à l'organisation, vous l'avez compris, mais la compagnie historique compte bien, dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois, aller rediscuter avec le pays de nouveaux mécanismes qui le permettraient d'absorber ce genre de pertes, Lucie.
Merci Charlie René. Vous pouvez bien sûr suivre sur nos ondes et sur notre site radio1.pf toutes les informations sur cette grève qui va toucher l'aérien, donc, mais aussi une partie de l'administration territoriale à partir de demain.
On reste dans l'actualité sociale avec la réforme du régime des non-salariés. Le ministre de la Santé revient sur l'avis du CESEC.
Oui, Cédric Mercadal dit qu'il tiendra compte de l'avis défavorable du CESEC sur sa réforme du régime des non-salariés, mais il ne renoncera pas aux cotisations sur les dividendes et les loyers. Vous le savez, les partenaires sociaux refusent que les revenus des locations immobilières fassent l'objet de cotisations. Pour Pierre Frébaud, qui avait défendu le texte devant le CESEC, les opposants à ce projet ne font que défendre une caste soucieuse de ne pas payer de cotisations sur ses placements. Et le ministre Mercadal est d'accord.
La CGPME, oui, elle parle de dividendes, elle parle de loyers, elle parle de beaucoup de choses. Dans le patrimoine, et des patrimoines plutôt élevés, parce que quand j'entends dire que c'est 500 000 francs de loyer qu'il faut exonérer, alors qu'avant tout était soumis à cotisation, et moi j'ai fait une exonération déjà de 250 000 francs net, je suis surpris.
Et au CESEC, la surprise est à l'inverse venue de ces nouvelles cotisations sur les revenus du patrimoine. Et pourtant, le ministre rappelle que tous les revenus sont déjà soumis à cotisation au RNS, en théorie du moins. Et donc, son projet de loi introduit des exonérations avec des plafonds. D'autres reprochent au ministre de, je cite, « faire les poches de ceux qui jouent le jeu » au lieu d'aller à la chasse des faux patentés. Mais le ministre assure qu'il s'y attaque, avec notamment des changements pour les personnes qui ont un travail salarié mais exercent également en patenté et ne cotisent que sur leur salaire et pas sur le reste.
C'est l'opposé des faux patentés, c'est quasiment des faux salariés. Il y en a quand même une grande majorité, ils devraient être au RNS, de nature, ils ont leur activité principale au RNS, et ils cotisent via le contrat de travail au régime des salariés sur une toute petite partie de leurs ressources. On va arrêter ces optimisations sociales qui sont quand même, pour tous, choquantes. Y compris pour le CESEC, je rappelle son avis, c'est eux qui criaient à corps et à cri, il fallait appliquer la fin de la primauté.
Si certains paramètres du texte pourraient évoluer, pas question donc pour le ministre de remettre en cause les grands principes de son projet de loi du pays. Un texte qui vient apporter de l'équité, dit-il. La mise en application est toujours prévue pour juillet.
On parle maintenant de cette nouveauté technologique, un petit bijou d'innovation.
Il s'appelle le LIDAR pour Light Detection and Ranging. Il est inséré dans un boîtier blanc de 25 kg fixé sous l'aile d'un Cessna qui comprend aussi un appareil photo à très haute définition, capable de distinguer des éléments de 5 cm au sol. Le LIDAR, lui, émet et capte plusieurs millions d'impulsions lumineuses par seconde pour acquérir de grandes quantités de données géospatiales. Il cartographie les terrains, les infrastructures ou la végétation et permet ensuite de les modéliser en 3D. Cette technologie de pointe est une grande nouveauté au Fénois entre les États-Unis et l'Australie. La Polynésie est aujourd'hui le seul territoire du Pacifique équipé d'une telle technologie. C'est la société spécialisée dans la cartographie, la topographie ou l'hydrographie Pacifique Sud Survey qui exploite le LIDAR. Et pour Olivier Sommet, fondateur de la société, le potentiel du LIDAR est presque infini.
On va toucher le monde de l'archéologie, de l'énergie, de la cartographie urbaine, des infrastructures, de la topographie, l'agriculture, la gestion forestière. Et que sais-je, demain, il y a sûrement des gens qui vont s'approprier ces données et qui vont trouver encore de nouveaux intérêts et de nouveaux applicatifs pour les données géospatiales.
Alors justement, à quoi sert cette technologie de pointe ? Ailleurs dans le monde, elle a déjà été utilisée pour évaluer le potentiel hydroélectrique des vallées, retrouver l'emplacement d'anciennes cités mayas au Guatemala, guider des véhicules autonomes dans de grandes villes américaines, ou encore évaluer les risques présentés par des coulées de lave en Sicile. En Polynésie française, la société pense à la gestion de l'urbanisation, l'aménagement de zones agricoles, avoir une meilleure connaissance des bassins versants, des zones naturelles et des sites archéologiques, et même aider les secours. Mais acquérir des données ne suffit pas, il faut ensuite les traiter. Des outils informatiques spécifiques et une intelligence artificielle spécialement créée sont utilisés.
On est vraiment sur des contraintes extrêmes pour la cartographie. Donc l'idée, c'est d'adapter un modèle d'intelligence artificielle qui soit propice à nos territoires insulaires et tropicaux. On va entraîner l'IA pour qu'elle puisse reconnaître et classifier les données. On va partir de la route, de la végétation, du sol, de l'habitation, du poteau électrique, du panneau solaire. Et l'idée, c'est de pouvoir classifier toutes ces données et qu'elles puissent être interprétées, que chaque personne puisse y trouver en tout cas l'intérêt pour son besoin.
Les premiers résultats de l'entraînement de cette IA sont jugés très encourageants, voire même assez fous par les responsables du projet. Et la société veut aller encore plus loin en poussant les capacités de son instrument. Un futur ingénieur topographique polynésien doit d'ailleurs arriver. Il va travailler sur ce modèle d'IA en tant que projet de fin d'études.
On termine avec ce rendez-vous samedi. Bon, si la météo le veut bien, il faudra être dans l'eau à 7h du matin.
Oui, même s'il pleut, Damien, courage, il faudra y aller pour ne rien manquer du spectacle de la ponte synchronisée des Porites russes. Ces coraux ont la spécificité de pondre de jour et simultanément à des heures et dates précises. Ce phénomène est observé au Fénois depuis quelques années maintenant, mais il s'agit désormais de savoir s'il est mondial. L'association Tama Note Tairoto organise donc un grand événement de science participative pour la prochaine date et ce sera ce samedi à 7h en Polynésie française et puis ensuite dans les autres pays participants en suivant le lever du soleil. 150 observateurs dans 33 pays sont mobilisés.
Le premier objectif qui est vraiment scientifique, c'est de savoir sur un seul et même événement, sur le même jour, jusqu'où va la synchronisation du phénomène. Ensuite, c'est vraiment pour mettre en lumière aussi ce phénomène de courant qui se reproduit de jour et qui est aussi important. C'est quand même incroyable de dire qu'un si petit animal arrive à se synchroniser sur des distances aussi grandes. Comment est-ce qu'ils sont connectés réellement? On ne le sait pas, tu vois.
Vous venez d'entendre VTA Liao, fondateur de Tamano Te Teiroto et passionné par ce phénomène. Les données récoltées sur une application créée pour l'événement seront ensuite analysées et VTA espère présenter des résultats officiellement début juin, en même temps que l'exposition annuelle de l'association. Le biologiste, un des premiers à avoir observé cette ponte, se dit stressé mais aussi excité par l'événement de samedi, un rendez-vous de science participative exceptionnel par son ampleur.
Ce genre de phénomène, c'est unique, je pense que ça n'a jamais été fait, et après oui, c'est exceptionnel dans l'étendue des pays qui ont été touchés, et on verra le chiffre final de combien de personnes ont vraiment pu se mettre à l'eau et ont vu le phénomène, ça on le saura dans d'ici une semaine je pense, c'est quand même très particulier. Oui. Surtout venant d'une petite asso qui n'est pas forcément connue ailleurs, c'est quand même un challenge quoi, hein, d'arriver à mobiliser des gens.
Et puis après être allé à l'eau, vous pourrez continuer la journée à l'Intercontinental où de 8h à 17h30, l'association Tamano Te Teiroto organise une exposition des vidéos immersives, de l'information et bien sûr le suivi en direct des résultats qui parviendront du monde entier sur l'observation du phénomène. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.